ministère prophétique tout à fait reconnu et que nous aimons beaucoup, Pierre-Daniel Martin. Et hier, dans un extrait que nous écoutions, il disait « L'Église doit se préparer à se confronter aux géants. » Aux géants. L'Église doit se préparer à se confronter aux géants. Ah, alors ça fait tilt, parce que l'après-midi, on était à quelques-uns au Château Blanc, à Thumry, et il y avait une très très belle méditation donnée par Étienne, que vous connaissez, notre ami Étienne, sur David confronté au géant Goliath. J'ai dit, tiens, alors donc le soir, ça m'a... Et dans sa méditation, Étienne parlait du récit. Souvenez-vous du récit, David a combattu sans armure, sans bouclier, sans épée, mais juste avec une fronde, mais avec 5 cailloux polis qu'il avait pris dans le torrent. 5 cailloux. Et un caillou a été la cible pour vraiment atteindre Goliath. Et dans sa méditation, Étienne disait avoir reçu de Dieu ces 5 pierres comme les symboles de 5, je dirais, armes spirituelles pour nous aider à confronter les géants et à les vaincre. Et alors, et parmi ces pierres, ces 5 pierres, je vous les cite rapidement. Puis je vais m'arrêter sur une de ces pierres sur lesquelles je m'étais arrêté déjà il y a 3 semaines, mais il y avait très très peu de présents. Et donc là, je vais peut-être répéter quelque chose, mais je sens que c'est important. Alors la première pierre, c'est la pierre de la foi éprouvée. Il s'agit de notre foi éprouvée dans le passé, dans des circonstances difficiles qu'on a connues dans le passé, qui nous ont permis de voir la fidélité de Dieu. Ce souvenir de la fidélité de Dieu nous a fermés dans le combat. La pierre de la foi éprouvée déjà. Deuxième pierre, la pierre de la parole python. Vous savez, l'alpiniste se sert d'un python pour qu'il enfonce dans la pierre pour s'accrocher, accrocher sa corde, et au cas où il dévisse, il est retenu par la corde. Et sur le plan spirituel, hein, la parole python est une parole, une promesse, bien souvent, que Dieu nous a donnée à un moment justement où notre foi a été éprouvée, une parole à laquelle on s'est accroché et à laquelle on peut encore aujourd'hui s'accrocher. Moi, il y a des paroles python auxquelles je m'accroche toujours. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça, c'est une parole python. Je m'accroche. Va avec la force que tu as et tu vaincras. Une troisième pierre, c'est la pierre de communion. La communion avec un frère ou une sœur avec qui on a la liberté de partager notre combat pour un accompagnement dans la prière. Et on dit toujours qu'un combat exposé à la lumière est un combat déjà à moitié gagné. Un combat partagé est un combat à moitié gagné. Quatrième pierre, la pierre des dons de l'Esprit. Non par puissance ni par force, dit le Seigneur, mais par mon Esprit, ne négligeons jamais le ou les dons qu'on a reçus, qu'ils ne soient pas endormis. Alors je ne développe pas là-dessus, ce n'est pas le but ce matin. Mais la cinquième et la dernière pierre, c'est la pierre de la prière persévérante. Et sur cette pierre, je me suis arrêté il y a 3 semaines. Je veux m'y arrêter parce que je crois qu'il y a plus de la moitié qui n'ont pas entendu ce message. Donc, mes excuses pour les autres, mais qu'importe, c'est parfois bon de répéter. Hein. Mais on va activer cette pierre. D'ailleurs, on va en activer d'autres à la fin. On va activer la pierre de la communion aussi. On peut peut-être activer la pierre de la foi éprouvée, de la parole python peut-être. Je crois que c'est important d'activer. Vous savez, un ordinateur, vous mettez un logiciel, mais si vous n'activez pas, il n'y a rien qui se passe. Et avec Dieu, c'est pareil. Ce qu'on entend, ce qu'il nous est enseigné, si nous n'activons pas ces choses, rien ne se passe. Et parfois, notre prière est désactivée. Il y a des domaines où on est découragé. On a une promesse et puis c'est long, on attend et on ne voit rien. Et notre prière est désactivée. Alors ce matin, nous allons réactiver la prière persévérante. Nous allons demander à Dieu que soit réanimée la prière persévérante. Amen. Alors, on va prendre. Tu peux y aller. Amy. Sur certains points, je passerai plus vite qu'il y a 3 semaines. Voilà. Alors, le texte pour la prière persévérante, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là par excellence. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne pas Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ?» sur la terre. J'avais donné un titre à ce message, c'est « Refusons le découragement, tout découragement, mais persévérons dans la prière, la 5e pierre. » Peut-être c'est avec celle-là que Goliath a vaincu, que David a vaincu Goliath. Alors, parmi tous les motifs de découragement, il y en a un particulièrement, c'est quand il y a succession d'échecs. C'est un peu sens, parce qu'hier j'ai regardé un extrait de The Voice, et puis celui qui a touché le jury hier, c'était quelqu'un qui a chanté une chanson, « J'ai peur de l'échec ». J'ai peur de l'échec. Et c'était tellement, ça correspondait vraiment à la réalité qu'il a vécu, il a vécu sa chanson. Et ça a touché le jury, ça a touché le public. Ouais. J'ai peur de l'échec. Ah ! J'ai peur de l'échec, j'ai peur de perdre. Et donc, la succession d'échecs, cette veuve l'a subie. Elle sollicite un juge pour défendre sa cause. Ouais. On voit l'image là. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de fois elle a dû frapper à sa porte. Puis non. Ouais. Combien de fois elle a dû frapper à sa porte ? Plusieurs fois, il refuse sa demande. Pendant longtemps, il refusa. Il s'agit d'une succession de refus. Un proverbe japonais dit ceci, « Le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. » C'est très proche de la Bible. « Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. » Proverbe 24. L'échec fait partie de la réussite. Ça vous choque ce que je dis là ? L'échec fait partie de la réussite. C'est une épreuve essentielle à surmonter pour les entrepreneurs. Et donc, je vais vous rappeler quelques exemples d'entrepreneurs. Bon, c'est des exemples de réussite humaine. Mais nous, on sait que la réussite, c'est la réussite spirituelle, évidemment. On ne cherche pas à être le plus riche du monde. On ne cherche pas à être le plus célèbre au monde. on cherche à faire la volonté de Dieu. Mais il y a des vérités sur le plan hors chrétien, je dirais, qui peuvent nous aider à comprendre des vérités spirituelles aussi. Et voici quelques exemples d'entrepreneurs. Steve Jobs, c'est le fondateur de la société Apple. Il a commencé avec 2 personnes dans un garage. Il a commencé tout petit. Et des années plus tard, on le connaît comme une entreprise de 2 milliards de dollars avec plus de 4000 employés. Pourtant, cet homme a été licencié de la société qu'il a créée. Et ce licenciement lui a fait comprendre que sa passion pour son travail dépassait la déception d'un échec. Donc il a surmonté. Là, connu, Bill Gates, fondateur de Microsoft. Voilà. Et un parcours atypique, il a quitté l'université et il créa une entreprise avec un certain Paul Allen. Et c'était un échec. Au départ, c'était un échec. Il a relevé la tête, il s'est montré intelligent et persévérant. Et aujourd'hui, il a bâti un empire. Et il a dit ceci. Le succès est parfois un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Ah, Albert Einstein. Ah, c'est quelqu'un, lui, notoriété publique, pionnier de la théorie de la relativité générale. Pourtant, cet homme n'a parlé couramment seulement avant l'âge de 9 ans. Seulement à 9 ans qu'il a commencé à parler couramment. Et sa nature rebelle l'a conduit à l'expulsion de l'école. Et il a été refusé à l'admission de l'école polytechnique de Zurich. Mais tous ces échecs ne l'ont pas empêché de remporter le prix Nobel de physique en 1921. Et à ce jour, ses recherches ont influencé différents aspects de la vie, notamment sur la culture, l'art, la télévision, etc. Tout le monde connaît, bien sûr, Walt Disney, la firme à la souris, mondialement connue. Il a été d'abord licencié par son éditeur dans un journal, car on disait de lui qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Et après cet événement, Walt Disney a tenté plusieurs fois de créer des petites entreprises qui n'ont pas une durée de vie très longue, laissant Disney sur la paille. Il continua de croire en son rêve, qu'il partage aujourd'hui avec des millions d'enfants et des plus grands aussi. Et il a dit, croyez en vos rêves, peu importe leur impossibilité. Là, c'est l'auteur de Harry Potter. Elle a souligné l'importance et la valeur de l'échec. Après un mariage éphémère, elle s'est retrouvée sans emploi, parents isolés, et aussi pauvre qu'il est possible d'être en Grande-Bretagne moderne, sans être sans abri. Et elle a dit, sortir de cet échec plus forte et plus déterminée que jamais, a été la clé de mon succès. Abraham Lincoln, d'ailleurs lui, il était chrétien, je pense. Il a fait faillite dans les affaires en 1831, souffrant d'une dépression nerveuse en 1836. Défait dans sa course à la présidence en 1856, Abraham Lincoln n'était pas étranger au rejet et à l'échec. Plutôt que de prendre ses signes comme une motivation pour se rendre, il a refusé d'arrêter, il a persévéré. Et il a été élu en 1861, 16e président des États-Unis. Et enfin, Spielberg, l'un des cinéastes les plus influents de tous les temps. Spielberg est un nom bien connu. Les dents de la mer, E.T. Voilà, il avait des notes médiocres au lycée. Il était renvoyé de l'université de Californie du Sud à 3 reprises. Ouais. Il ne terminera pas son diplôme d'universitaire avant l'âge de 33 ans. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, Spielberg a réalisé 51 films et obtenu 3 Oscars. Voilà, le point commun entre toutes ces personnes, c'est leur passion. Ouais, leur passion qui les a conduits à la persévérance. Alors comprenons que la loi de la persévérance marche avec ces personnes pas spécialement croyantes, à plus forte raison pour nous qui sommes croyants. Alors, arrêtons-nous sur une deuxième parole que Jésus dit, entendez ce que dit le juge unique. Entendez, que dit-il ? Quoique je ne craigne pas Dieu, je n'ai égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête sans cesse. Mais entendons ce que Dieu veut nous dire à travers cette parabole. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit ? D'un côté, un juge injuste, sans cœur, cède à la pression d'une veuve. Dieu, qui est bon, qui est juste, ne céderait-il pas ? Bien sûr, n'oublions pas de demander, non pas selon nos passions, hein, mais selon sa volonté. Ah, si vous demandez de gagner au loto la semaine prochaine, pas sûr que Dieu forcément va répondre. D'accord, vous comprenez. Rappelons-nous cet épisode de Moïse. D'accord ? Dans le combat entre Israël et Amalek. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Quand Amalek est plus fort ? Quand Moïse baisse les bras. C'est ce que l'ennemi essaye de faire avec nous. Vous avez remarqué ? Que nous baissions les bras et que nous arrêtions de prier avec confiance ou que nous arrêtions de prier tout court. Vous remarquez l'ennemi qui essaye de nous décourager ? Et je crois qu'il y a de multiples exemples dans la Bible qui nous invitent à la persévérance. On a vu la veuve avec sa ténacité, on vient de le voir, on a vu les propos du juge unique, on a vu l'exemple de Moïse, il y a encore la persévérance de Daniel. Ah là, je mets entre parenthèses, ne jamais baisser les bras. Ouais. Voilà, la persévérance de Daniel dans le jeûne et la prière. Dans Daniel 9, 12, 13, il me dit, « Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Daniel n'a pas cédé au découragement dans le contexte où il se trouvait. On l'a souligné hier au Château Blanc. Daniel reçoit des révélations dans un temps de désert, dans un lieu en ruine, alors que Israël est en ruine, alors que Jérusalem est en ruine. Vous savez, il peut y avoir les pires catastrophes autour de nous. Dieu n'arrête pas de parler, Dieu n'arrête pas de donner des révélations. Soyons prêts à les recevoir. Daniel a reçu, malgré la ruine autour de lui. Voilà, et il constate les 70 ans qui sont accomplis, alors il a recours à la prière, une prière de foi, pour implorer la miséricorde de Dieu et lui rappeler la promesse faite 70 ans plus tôt, la parole Python. Que faisons-nous des promesses de Dieu à notre égard, hein ? Que faisons-nous des promesses de Dieu à notre égard ? On voit à travers ce texte que notre prière de foi déclenche généralement une bataille dans le ciel. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère, mais il y a des batailles dans le ciel. Hein ? D'accord ? C'est la réalité du combat spirituel. L'ennemi résiste. Mais notre ténacité doit le faire céder. Là, il y a eu 21 jours de résistance avant que Daniel voie le début de la réponse à la prière. Peut-être à notre prière de foi, devons-nous peut-être parfois joindre le jeûne. À nous d'écouter l'Esprit-Saint, ce que Dieu semble nous dire, mais soyons toujours prêts à résister. Si Dieu nous a donné une parole, une conviction, une promesse, soyons prêts à résister des semaines, des mois, des années. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Voilà. Les batailles de la vie sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais. Alors, chers amis, voilà, notre réussite n'est pas tant liée à nos compétences comme on voudrait, hein, nous faire croire trop souvent. On n'a pas à douter de nous-mêmes. Je sais que Dieu m'a redonné ce texte du juge inique et de la veuve dans un moment où j'étais dans la confusion, où j'étais tenté par le découragement. Et Dieu m'a donné vraiment cette parole. Ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté tout récemment encore. Nous n'avons pas à douter de nous-mêmes et à nous dire qu'on est moins bon que les autres. Mais notre réussite est davantage liée à notre détermination, notre ténacité. Et la question finale, finalement, est posée à la fin de cette parabole. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Cette foi, c'est la capacité de ne rien lâcher, de persévérer. Souvenez-vous cette traversée de Paul dans la tempête pour aller à Rome. C'était de 14 jours terribles. Plus personne n'a aucun espoir de rester en vie. Paul est là, mais Paul a eu la visite d'un ange qui est venu lui dire « Ne crains pas, Paul, je vais te garder en vie et aussi les autres, je vais les garder en vie. Seul le bateau va subir des dommages. » Et Paul a cru à cette parole de Dieu donnée par l'ange. Et il s'est levé un moment et il a dit « Ne craignez pas. » Voilà, j'ai eu la visite d'un ange et il m'a été dit ceci, cela, qu'on allait rester en vie. Prenez courage. Il en sera comme il m'a été dit. Waouh, ça c'est une parole de foi. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'aime bien Didier quand tu dis souvent maintenant je prie avec la parole, et c'est tout à fait juste. Je crois qu'il nous faut prier avec la parole de Dieu, la parole qu'on a reçue, la parole Python, avec les promesses de Dieu, et déclarer il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Alors, chers amis, j'en arrive à la conclusion. Hein. Au milieu des tempêtes que nous traversons, est-ce qu'on peut dire la même chose ? Est-ce qu'on va céder au découragement, nous arrêter à ce que nous voyons, à ce que nous entendons ici ou là, des paroles négatives peut-être qui nous ont été dites ? Allons-nous nous arrêter de prier, en particulier pour le salut des âmes, notamment ? Ou allons-nous nous accrocher aux promesses de Dieu et faire preuve de ténacité, de détermination et persévérer dans une prière de foi. Amen. Amen. Alors on va activer maintenant, on va activer cette pierre de la prière persévérante. On va activer les pierres. Si on ne les active pas, rien ne va se passer, d'accord ? Alors, et ça va vous aider pour la suite à être ces guerriers qui n'abandonnent pas, d'accord ? Pensez à réfléchir dès maintenant, pendant que je cherche un petit truc là. Pensez à réfléchir. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où vous êtes tenté de baisser les bras ? quelque chose qui vous tient à cœur, et Dieu même vous a peut-être parlé hein, là-dessus, et puis, je sais pas, vous êtes tenté de baisser les bras. Pensez à ce sujet. D'accord ? Et on va se mettre en petit cercle. Et pourquoi en petit cercle ? Parce qu'on va faire un geste qu'on ne peut faire correctement que si on est en cercle. Je vais vous expliquer après. Je m'occupe des trois, là je viendrai avec vous trois. Vous n'allez pas trop bouger comme ça, je sais que... Mais commencez à constituer des petits cercles, trois ou quatre, d'accord ? Trois ou quatre, des petits cercles comme ça, allez-y. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire.